Il faut faire parler les silences de l'histoire.
Le témoin de ce vendredi, Maître Charrière Bournazel, avocat des parties civiles, au procès Barbie il y a 30 ans.
Mais pourquoi est-ce que Barbie n'est pas là ? Sa confiance a lâcheté. Il aurait dû être là pour protester contre ce qu'on dit contre lui. Non. Mais en fait, je vous dis, sa confiance a lâcheté.
Klaus Barbie n'a comparu à son procès qu'aux premières audiences du 11 au 13 mai 1987, puis contraint et forcé le 26 et à aucun moment il n'a accepté de répondre aux questions. Il estimait que son extradition depuis la Bolivie était illégale et que sa place n'était pas au palais de justice de Lyon. Il avait pourtant sévi dans la ville de l'occupation de la zone sud en novembre 1942 à sa libération en août 1944. Il s'était volatilisé en 1945 pour reparaître sous le nom de Klaus Altmann en Bolivie, dont il a obtenu la nationalité en 1957. Il servait là-bas les intérêts des dictateurs successifs sous la protection des services secrets américains, voire allemands. Il a été identifié grâce aux époux Klarsfeld et un mandat d'arrêt a été lancé contre lui depuis Lyon en 1982. Un heureux changement de pouvoir à La Paz en 1983 a permis son expulsion vers Cayenne, d'où il a été transféré à Lyon. Il avait été condamné par contumace en 1954, mais pour crime de guerre. Cette fois ont été retenus ses crimes contre l'humanité, imprescriptibles. La rafle de la rue Sainte-Catherine en février 1943, celle des enfants d'Izieux en avril 1944 et enfin le convoi de la déportation du 14 août 1944.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Tristan Charrière-Bournazel, bonjour.
Bonjour.
Avocat d'une des parties civiles, vous étiez 40 à peu près au procès Barbie. Serré, disait André Fossard.
Serré comme des hirondelles sur les trois rangs, qui nous empêchaient d'avoir de grandes manifestations individuelles, et c'était plutôt mieux.
Vous étiez membre de la LICRA depuis déjà pas mal d'années, et depuis, il vous est arrivé souvent de plaider dans des affaires comparables, le procès Papon, les affaires de négationnisme qui continuent, de Rochef. Vous vous comparez avec un éboueur.
Face à cette haine antisémite quasiment inextinguible, malgré la Shoah, malgré ce que l'on sait des horreurs passées, je me fais l'effet d'un éboueur, ce qui retomberait indéfiniment la benne à ordure.
Vous étiez, avec Maître Feder, plaidant pour une partie civile dont on parlera plus précisément dans un instant. Vous étiez serré avec les autres comme des hirondelles. Mais comment était le dispositif, ce début de mai 1987 à Lyon ?
C'était tout à fait étonnant parce que ce procès considérable, aussi bien au plan de l'histoire que dans sa configuration humaine, 40 avocats de partie civile, Vergès et Barbie et puis les deux avocats qu'il a fait venir avec lui, il fallait un espace en plus qui permit de recevoir le public. Et donc c'est la salle des pas perdus de la Cour d'appel de Lyon qui a été transformée en immense salle d'audience. Et quand il m'est arrivé d'y retourner depuis, j'ai toujours eu une sorte d'impression forte de ce qui est devenu, au fond, redevenu un hall désertique, alors que nous avons vu s'y succéder dans les travées du public, en hauteur, comme dans les rangs des avocats, quantité de personnes. Beaucoup sont mortes aujourd'hui, 30 ans après, mais ce fut un lieu d'intense mémoire.
Les archives filmées demeurent, puisque une loi de 1985, défendu par Robert Badinter, autorisait, dans des conditions qui étaient bien précisées, l'enregistrement des audiences. Ça a eu une influence sur votre comportement aux uns et aux autres ?
Je pense que ce qui a le plus influé sur nos comportements, c'est le sentiment que, si longtemps après des crimes imprescriptibles, l'auteur comparaissait devant des juges. Plus que l'idée d'être filmé, enregistré, c'était moins important, puisque de toute façon, la loi que vous évoquez prévoyait qu'on ne verrait tout cela de manière publique longtemps après. Mais ce qui nous a sauté à l'esprit tout de suite, lorsque les premières parties civiles sont venues s'exprimer, c'est le fait que le jugement était indispensable. Face à face avec Barbie, bien sûr. Mais vous savez, le criminel contre l'humanité, et c'est le cas de ceux qu'on a vus à Nuremberg, dont on a gardé les films, tend son oreille en mettant ses doigts comme s'il écoutait une histoire qui n'était pas la sienne, comme une chose étrange qui venait d'ailleurs. Aucun de ces personnages n'a jamais exprimé des regrets et des remords, jamais. Et ce qui importait, c'était beaucoup moins le face-à-face impossible entre la victime et son ancien bourreau, que le regard porté par ses semblables devenus juges, qui restituait à chaque victime sa dignité humaine. Et c'était ça qui était pour moi le plus impressionnant.
Oui, parce que l'échange de regards avec Barbie, le plus souvent, a manqué. On reviendra sur l'audience du 26 mai, à laquelle il doit comparaître, contraint et forcé, et où, comme les premiers jours, il est muet. Donc avec Maître Feder, vous défendez la mémoire de Marcel Gombel qui travaillait dans un laboratoire, le laboratoire d'histoire naturelle des corps organisés au Collège de France.
Encore plus, vous évoquez mon ami Alain Feder et j'évoque sa mémoire avec beaucoup de tristesse puisqu'il est mort il y a peu de temps. C'est lui qui m'avait demandé de venir avec lui dans ce procès où il était l'avocat de Nicole Gombel, la fille d'André Gombel. Et André Gombel était professeur au Collège de France. C'était un homme tout à fait éminent et en plus un humaniste remarquable, puisque il avait, étant actionnaire des grands magasins Les Dames de France, qui était une chaîne de magasins extrêmement lucrative, il avait inventé avant 1936 le repos du dimanche, la semaine de congés payés, des avantages pour les salariés, au point d'ailleurs qu'il avait été viré par les majoritaires. Donc c'était un homme tout à fait respectable. Et alors qu'il avait 72 ou 13 ans, il s'était engagé dans la résistance avec grande détermination. Il était d'origine alsacienne, Gombel, et comme tous les patronymes alsaciens, Gombel pouvait désigner aussi bien un protestant, un catholique qu'un juif. Et sans vouloir anticiper sur ce que vous voulez évoquer, s'il a été arrêté, c'est parce que sur la place Bellecour, un jour a eu une rafle, et les nazis ont demandé aux uns de se mettre du côté des juifs et les autres de l'autre côté. Et André Gombel est allé du côté des juifs.
Oui, mais c'est que ce jour-là, il portait sur lui.
Voilà, c'est ce que Nicole,
une liste sa fille, des membres de son réseau.
Absolument. Une liste des membres de son réseau en langage codé. Et il a pensé, c'était extrêmement remarquable de sa part, qu'en attirant l'attention sur son côté juif, on ne demanderait pas de compte sur ce papier qu'il avait sur lui. Mais il en fallait plus pour impressionner Barbie.
Il a été interrogé de manière très sévère. Et là intervient un témoin que vous avez, Maître Feder, Nicole Gombel et vous, cité. C'est André Frossard, prisonnier alors à Montluc, un des 8000 résistants et juifs passés à Montluc. Le professeur Gombel est mort dans les bras de Frossard à la suite de ses tortures.
Voilà, il est arrivé à la baraque aux juifs de Montluc, c'est ce que raconte Frossard, dans un état pitoyable et sans aucun soin, sans rien. Il est mort en effet entre les bras de Frossard après 3 jours de souffrance atroce et il poussait des hurlements parce qu'il ne pouvait supporter aucun contact d'aucune manière.
Frossard est alors une grande autorité, écrivain, éditorialiste au Figaro, académicien. Il faudrait d'ailleurs rééditer les textes qu'il a tirés de son expérience de Montluc et de son expérience du témoignage au procès Barbie. Lui, au moment où il a été interrogé, il était résistant également, il a pu jouer sur sa qualité de quart de juif seulement, et il était du bon côté, pourrait-on dire.
Pour qu'il y ait crime contre l'humanité, il faut 2 éléments constitutifs. Il faut d'abord que l'on tue quelqu'un sous le seul prétexte qu'il est né. Il est né en contradiction avec la doctrine, c'est son seul crime, la seule charge retenue contre lui. On le tue pour ça, qu'il soit juif ou tzigane. Le deuxième élément qui est indispensable, c'est la tentative d'avilissement de la personne qui précède la mise à mort, c'est-à-dire sa réduction à l'état animal, préoccupé uniquement de sa survie, une tentative de destruction psychologique de l'être humain comme elle existait dans les camps d'extermination à Auschwitz, Treblinka, Sobibor et les autres. Et quand ces 2 éléments ne sont pas réunis, il n'y a pas qu'un crime contre l'humanité. On ne peut pas le confondre avec le crime de guerre. Il y a eu d'autres camps en Allemagne que les camps d'extermination, mais les résistants et les autres déportés y allaient tout seuls. Les juifs à Auschwitz, y allaient avec leurs femmes, avec leurs enfants, avec leurs nourrissons, qu'on jetait parfois directement dans le crématoire, n'est-ce pas? Ça suffit à montrer toute la différence qui peut exister entre les massacres ordinaires qui font malheureusement le courant de l'histoire de l'humanité et cette sorte de crime qui, à mes yeux, n'a pas de précédent.
Ces familles, ajoutait-il, c'était en effet tout Israël. Cela faisait 3000 ans que cela durait. Ils venaient de la captivité de Babylone. C'étaient les mêmes juifs qui, depuis le commencement des temps, portent les péchés du monde.
C'est un témoignage admirable qu'il a livré à la cour. Et si vous me permettez, je voudrais revenir sur le problème juridique, mais qui nous intéresse tous, ce n'est pas techniquement compliqué. Le crime contre l'humanité est imprescriptible. Le crime de guerre, lui, se prescrit par 10 ans. Et Gompel a donné lieu à un débat juridique jusqu'à la cour de cassation, parce que il était résistant. Et la question qui se posait, un peu triviale, était de savoir s'il avait été torturé comme juif ou comme résistant. Or, la cour, heureusement, a tranché en estimant que le crime contre l'humanité était aussi celui que l'on commettait contre ceux qui, n'étant pas juifs, avaient combattu les régimes qui voulaient exterminer des populations criminelles d'être nés. Et c'est ainsi que Gompel a été jugé victime d'un crime contre l'humanité.
Je vous propose, ça ne mérite pas de commentaire, une fois qu'on aura entendu ces témoignages, de nous arrêter sur une audience. Depuis le 14 mai, chacune des audiences commence par un acte de procédure par lequel la cour constate que Barbie refuse de comparaître. Ce 22 mai, on a entendu à Lyon Lise Bogato-Lesèvre. C'est une ancienne déportée de Ravensbrück. Elle comparait debout, avec sa canne, tenant à ne pas s'asseoir, mise en plis impeccable, extrêmement élégante.
J'imaginais que je serais une loque pitoyable qui tomberait à leurs pieds. Et à partir du moment où j'avais passé une journée épouvantable, je dois dire, j'étais angoissée, j'avais peur. Et à partir du moment où j'ai été arrêtée, pof, tout est parti. On m'emmenait dans un grand salon élégant. Il y avait des portraits immenses de tous les Hitler, Goebbels, Göring. Oui. Et je les regardais, moi j'étais très décontractée, j'étais très femme du monde, je posais des questions, on répondait gentiment, de temps en temps on criait. J'ai été fouillée, on a pris les papiers que j'avais sur moi, et tout d'un coup on est tombé sur un pli Didier. À ce moment-là, ça a été la révolution. Didier était le capitaine Chambonnet, chef de la S dans tout le sud-est.
La S, c'est l'armée secrète.
Et à ce moment-là, on m'a dit « c'est vous Didier ». J'ai passé la nuit dans la cave, et le lendemain matin, les soldats m'ont emmené, et je suis arrivée dans une pièce dans une pièce qu'on n'est pas habitué à voir, bien entendu. Il y avait des chaînes qui pendaient du plafond, des harnachements bizarres, des menottes à griffes sur une table. On m'a bien laissé tout examiner. Il y avait des menottes avec des griffes intérieures, vous savez.
Oui.
Barbie est arrivé presque aussitôt. Il m'a passé les menottes à griffes, il a serré. J'ai eu 19 jours d'interrogatoire, dont 9 à la chambre de torture. Et Barbie m'a dit, à la fin, puisque tu ne veux pas parler, parce qu'on en venait au tutoiement très rapidement, puisque tu ne veux pas parler, on va aller chercher ton mari et ton fils. Et là, tu seras obligé de parler. J'ai vu arriver mon mari et mon fils, enchaînés l'un à l'autre. Il avait toujours été convenu que si l'un de nous se faisait prendre, il prenait tout à sa charge. Ce que j'ai fait, mais ils ont gardé mon mari et mon fils, qui eux ne sont pas revenus.
Qui ne sont pas revenus?
Non. Jean-Pierre avait 16 ans. Et il a été torturé par Barbie.
C'est un extrait du film Hôtel Terminus de Marcel Ophuls qui reprend à peu près mot à mot le témoignage qui fut celui de Madame Lesèvre au procès Barbie. Un peu plus tard, dans la même journée du 22 mai, Simone Cadochet-Lagrange, elle a été arrêtée à 13 ans avec sa famille, laquelle avait été dénoncée par une Française qu'elle hébergeait. Cette arrestation avait eu lieu le 6 juin 1944.
Je me suis trouvée, pour aller au plus court, devant un petit bonhomme, un homme qui ne m'a pas fait peur, qui n'était pas ce qu'on imaginait, ce grand, blond, fort. Vous savez, c'était l'image qu'on avait à cette époque des SS. Lui n'était pas grand, il n'était pas blond, il n'était pas fort. Il avait un chat dans les bras, il avait tout pour... pour être un monsieur tout à fait quelconque, si vous voulez. Et pour moi, c'était quelqu'un qui était certainement pas mauvais, puisqu'il aimait les bêtes.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut rappeler qu'à cette époque-là, vous aviez 13 ans. Comment se sont passées les choses?
Oh, simplement, il est venu, il a regardé mon père d'abord des pieds à la tête. Habituellement, on regarde les gens de haut, mais là, il ne pouvait pas. Avec un sourire en lame de couteau. Il caressait toujours son chat. Il est venu vers moi, il m'a caressé la joue. Et puis, il m'a dit que j'avais de beaux yeux. Et puis, il est allé trouver maman. Il lui a fait le même compliment. Il l'a trouvée très belle. Vous avez, madame, de beaux yeux. Est-ce que c'est la seule petite fille que vous ayez? Et maman a dit non. J'ai encore deux enfants qui sont partis à la campagne pour être protégés des bombardements. Ma mère avait 33 ans et effectivement, elle était très jolie. Et elle ne savait pas où elle mettait les pieds en disant ça. Vous savez, les mamans sont flattées quand on dit que leurs enfants sont beaux. Ça a été comme ça que ça s'est passé. On a été dénoncés pour fait de résistance et Barbie, pour première question de Barbie, a été de savoir où étaient deux enfants juifs qu'il voulait pour compléter un train certainement qui partait pour Auschwitz. À la suite de quoi, il est revenu me poser la question à moi. Il s'est rendu compte qu'il n'aurait rien de la part de mes parents, donc c'est à moi qu'il a posé la question. Pas plus que mes parents, je connaissais l'adresse de mes frères et sœurs. C'était l'époque où j'avais, à ce moment-là, des cheveux particulièrement longs. On mettait les cheveux dans des résilles. Et cet homme qui était si souriant, 3 minutes avant, qui était si gentil en caressant son chat, m'a commencé à me mettre la plus belle paire de claques que j'ai jamais reçue. Puis il est allé déposer gentiment son chat sur son bureau. Il est revenu m'attraper par les cheveux et les coups ont commencé à pleuvoir. Si vous voulez, c'est le premier contact que j'ai eu avec Barbie. Ce qui m'a le plus fait mal, bien sûr les coups m'ont fait mal, j'étais pas habituée, mais c'est surtout cet esprit tortueux qu'avait Barbie, c'est-à-dire la manière dont il savait torturer par personne interposée. Lorsqu'il m'a ramené le soir à la prison, il a appelé ma mère sur le pas de la cellule et il lui a jeté dans les bras sa fille, donc moi, avec les cheveux collés par le sang qui coulait de certaines plaies, les yeux complètement fermés par les coups. Et alors que ma mère poussait un cri en me prenant dans ses bras, il la regardait et il lui a dit « Tu vois, c'est toi qui mets ta fille dans cet état parce que tu ne veux pas me donner l'adresse des deux autres. » C'est une autre forme de torture, si vous voulez, qui est beaucoup moins sanguinaire que d'autres, mais peut-être plus profonde.
C'est difficile de restituer votre état d'esprit d'il y a 30 ans, Christian Charrière-Bournazel, mais tous les jours, c'était ainsi.
C'est un étonnement extrêmement bouleversant, parce que les souffrances ainsi évoquées avec cette grande pudeur, mais cette grande précision, vous renvoient à votre enfance heureuse de petit garçon né après la guerre et qui a dû sa liberté au courage de ses héros. Et beaucoup de témoignages bouleversants nous ont ainsi laissés sans voix, et notamment celui de l'institutrice des enfants d'Isieux qui avait tenu, alors qu'elle n'était pas juive, à les accompagner dans le train, puis ensuite jusqu'au camp d'extermination. Il la serrait, il la tenait par la main, elle en avait 4 ou 5 à chaque main, et d'autres dans ses jupes, et arrivée au camp, elle raconte qu'au moment où il est entré avec ses enfants qui s'agglutinaient auprès d'elle, qui était leur protection, les nazis ont arraché les enfants de ses mains. Et elle m'appellerait toujours la voix avec laquelle elle a dit « Ils m'ont enlevé les enfants ». Elle s'est mise à pleurer devant la cour et on était évidemment bouleversés.
Ça a fait image chez vous. S'il vous est arrivé de reprendre les textes, avez-vous constaté des oublis?
Il y a des noms qui m'ont échappé. Cet homme dont j'ai oublié le nom, pardonnez-moi, mais qui est venu, je l'ai raconté beaucoup depuis, très 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 rapidement après le procès, quand on me l'a demandé. C'est un homme qui est dans un camp d'extermination, on est en 44, il voit les élévations au-delà du camp hérissées d'hommes en armes, il croit qu'il hallucine, ce sont les alliés.
On est même donc en 45.
Oui, bien sûr. Ces soldats américains, canadiens, anglais dévalent les pentes, arrivent jusqu'au barbelé avec de grandes cisailles, des coupes, sans qu'on leur oppose de résistance. Il raconte que les plus jeunes ou les moins fermes de ces jeunes soldats, en voyant le spectacle des cadavres, se mettent à vomir ou à pleurer, pendant que les plus résistants montent dans les miradors, saignent les sentinelles et les amènent désarmés au centre du camp. Et là, de tous les baraquements sortent les cadavres vivants, les rayés, les tondus, pour regarder avec des yeux ébahis ce spectacle incroyable de leurs tortionnaires sans armes entourés d'hommes en armes. Et il continue en disant « Les alliés nous ont dit « On doit partir et continuer la guerre, on va donc vous laisser mais on reviendra. Dans l'intervalle, on vous laisse des armes et des rations de nourriture et on distribue les rôles. Aux uns, le soin d'enterrer ceux qui allaient mourir encore, à d'autres, la répartition de la nourriture qu'ils laissaient, et à d'autres, enfin, la remise des armes pour garder les gardiens. » Et le témoin dit « Ils sont partis. Et nous nous sommes retrouvés armés, devant nos bourreaux sans armes. Notre seule pensée, notre unique obsession, a été qu'ils ne tombent pas un cheveu de leur tête avant d'avoir été remis à une justice. Et nous nous sommes privés sur nos rations de nourriture pour qu'ils ne manquent de rien. »
La possibilité du pardon, Yankelevitch, que vous aimez citer, disait « Pardonner, peut-être, mais à qui ?»«
Qui nous a demandé pardon ?» disait-il,
bien sûr. Et Barbie, il ne venait pas.
Le procès n'était pas fait pour réconcilier le bourreau et sa victime, mais c'était pour avoir la reconnaissance d'êtres humains de la part de leurs semblables juges face à ceux qui avaient méprisé cette humanité.
Pas de communication entre eux, sauf que le 25 mai, deuxième journée d'audience que je voudrais qu'on évoque, Mario Blardone, qu'on va entendre, un ancien de l'armée secrète, mais aussi bien son ami Lucien Marguen, un ancien de combat du Jura, insiste pour que Barbie vienne.
Barbie, c'est un système, il a peut-être eu son idéal à lui nazi, mais on avait le nôtre dans la résistance, mais on n'a jamais agi comme il agit. J'ai vu Barbie en quatre fois exécuter des prisonniers dans les escaliers de l'école de santé qui descendaient à la cave. J'étais dans cette fameuse cave justement où on avait vu sur les escaliers. Barbie sortir son revolver quand le prisonnier est arrivé à la quatrième marche et lui loger une balle derrière la nuque et pousser un ricanement parce que le pauvre gars il culbutait en bas dans les escaliers. C'est comme on dit le saut du lapin quoi. Et ça c'était quelque chose qui vous marque. Je l'ai vu quatre fois. Et je l'ai vu autour, je peux pas donner exactement la date, mais autour du 10 mai par là, c'était presque au début que je commençais à être torturé. J'ai vu Barbie lui-même descendre en bas et pendre sous les tuyaux de chauffage cinq gars que je sais pas qui c'est. Cinq gars, il les a pendus devant tous ces larbins, j'appelle des larbins, moi, des Français, des Allemands, tout ça, de la Gestapo.
Devant la force de l'interprétation de Blardone et aussi de celle de Marguen, le procureur général, Pierre Truche, dont il faut citer le nom, réagit en demandant au président Cerdini, dont il faut citer le nom, la comparution effective et contrainte à la fin de l'audience du lendemain de Barbie. Et le 26 mai,
Klaus Barbie est arrivé aussi droit, aussi raide que le premier jour du procès, le 11 mai dernier. Le président fait alors venir le premier des cinq témoins qui n'ont jamais été confrontés. Et il s'agit de Lucien Marguen, qui avait été notamment supplicié par Barbie. Il avait subi le supplice de la baignoire. Vous le reconnaissez, demande le président. Oui, formellement, répond le témoin. Regardez le rictus. Il n'a pas une tête courante, ce type-là. Alors le président, s'adressant à Barbie, monsieur l'accusé, avez-vous quelque chose à répondre? Et là, Barbie a sorti un papier, comme l'autre jour, et s'est mis à lire. Il se plaint d'avoir été arrêté illégalement. Il dit avoir été enlevé et livré à la France. Et il est forcé de comparaître. Il ne dira donc plus rien, sauf peut-être ceci, puisque juridiquement il est absent, il ne répondra plus. Le président fait venir Mario Blardone, un second témoin, qui a été torturé par Barbie et qui avait vu le chef de la Gestapo obliger des femmes à subir des supplices sexuels avec des chiens. « Je veux bien le regarder dans les yeux, » dit Blardone. « Ce SS sans mitraillette, en fait, ce n'est rien d'autre qu'un lâche. »
Compte-rendu d'audience de Ladislas de Hoyos sur TF1, Ladislas de Hoyos qui avait joué un rôle dans l'identification de Barbie en Bolivie. Christian Charrière-Bournazel.
Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que je viens d'entendre. C'est évidemment essentiel pour les victimes que ce face-à-face, d'où ne sort rien.
Mais ce qui aurait pu faire sortir de ces cons Barbie, c'est l'évocation de ce crime sexuel. Et il a failli scier, là.
Il ne cherchait même pas à paraître quelqu'un qui essayait de se justifier. Son avocat, Vergès, a essayé. Et a essayé à plusieurs reprises, avec d'ailleurs de quoi nous indigner quand il entrait dans la salle d'audience, ou depuis les marches du palais de justice de Lyon, en faisant lever de la victoire, quand il s'était fait photographier dans sa baignoire. Et la photo est parue dans Paris Match. Vergès est de grande qualité, mais dans cette affaire-là, il a été insupportable. Je vais d'ailleurs dire au moment de plaider que les jurés allaient prêter attention à ma plaidoirie comme à toutes les autres, et comme ils le feraient le moment venu à la plaidoirie de Vergès, au moment où le battleur allait le céder à l'avocat.
Mais il avait à ses côtés un avocat de Brazzaville et une avocate d'Algérie, tombée du ciel, pour dire que la France, dans ses anciennes possessions, s'y entendait aussi en crime contre l'humanité.
Alors, c'était une tactique qui voulait être habile, et moi j'avais tenu à plaider la préméditation française du crime nazi, pour couper l'herbe sous le pied de Vergès, en disant en fait que la complicité de l'antisémitisme français n'enlevait rien à la culpabilité de l'auteur principal. Et l'idée selon laquelle Barbie aurait été un soldat au service commandé, lui au moins c'était légitime, tandis que les Français collaborateurs ne l'auraient pas été, ne devait avoir aucune portée.
Ma dernière question, Christian Charrière-Bornazel, va porter sur votre plaidoirie que vous ne vouliez pas qu'on évoque particulièrement. Elle a eu lieu à la 27e audience. Et l'entendant, j'ai vu que vous insistiez sur le mot « chien ». C'était des chiens enragés que ces criminels.
Le mot est cruel pour les chiens. Car le chien n'a pas la conscience du mal qu'il fait. Et au fond, c'est quelque chose d'autre, ce criminel qui nie à sa victime le droit d'exister, qui lui reproche comme un crime d'être né. Si Satan existe, c'est l'incarnation même de Satan. La folie haineuse des nazis s'était exprimée dans la plaidoirie de ma consoeur et amie Sylvia Zimmermann, qui nous avait raconté, ce que je ne savais pas, que alors qu'en France, les juifs n'avaient pas le droit, sous l'Ancien Régime, de posséder de la terre, les Allemands, eux, avaient autorisé les juifs à posséder de la terre agricole et à être agriculteurs. Mais au moment où la folie nazie se développe, partent des villages, des familles qui se connaissent depuis toujours, une file d'Ariens, en face une file de paysans juifs. Les Ariens sont armés, à l'entrée du bois, ils tirent chacun sur son juif. Et la réglementation nazie dit que lorsque, au moment de l'arianisation, un taureau est confisqué à un juif, il n'aura pas le droit de saillir une vache du village avant un délai de 6 mois depuis la confiscation. La vache confisquée à un juif ne pourra pas être saillie par le taureau du village avant un délai de 6 mois depuis la confiscation. C'est-à-dire que le taureau et la vache eux-mêmes sont enjuivés. Bon, c'est une monstruosité, une folie extraordinairement odieuse et qui ne s'apparente à rien qui puisse relever de l'humanité.
Le crime d'être né, nous rappelons notre appel qu'on réédite André Frossard.
Je vous en remercie, je suis effectivement très soucieux que ce livre, Le Crime contre l'Humanité, soit réédité et lu.
Merci à vous, Maître Charrière-Bornazel. L'émission a été préparée par Frédéric Martin et Franck Olivard, Maxime Ingrand, à la technique et à la réalisation, Valérie Aestaraï.